RMC.
Je pense qu'aujourd'hui, on va pas se permettre de tuer l'ours avant de faire le championnat.
Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu.
C'est une position que j'aime bien aussi, donc voilà, c'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot, Jean-Christophe Drouet.
Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez seulement, sachez que l'After l'été 21h minuit, et à la rentrée ce sera également 21h minuit, donc merci d'être fidèle, mais venez si vous êtes fan de l'After un petit peu plus tôt maintenant, à partir de 21h tout l'été. Damien Perrinel, Kevin Diaz, vous avez jamais parlé d'ours comme ça en conférence de presse, vous n'êtes jamais emmêlé les pinceaux avec une expression.
Heureusement qu'on est là quand même, nous footballeurs, pour vous faire des jingles.
Exactement.
Il y a des zappings à la fin de l'année sur nous, sinon ce serait bien triste.
Je m'en souviens d'un, impossible à retrouver et on l'a jamais pu le repasser, mais un joueur de foot en quittant un terrain avait dit quelque chose et ensuite il est fini en disant bah ouais, mais moi j'ai pas ma langue dans ma bouche, et j'avais trouvé ça absolument incroyable. Voilà, Kevin, ça t'est arrivé?
Honnêtement, j'ai pas fait énormément, j'en ai fait quelques-unes mais pas énormément d'interviews en français, mais en néerlandais ça a dû m'arriver.
Ouais.
Bon, après c'est pas ma langue et puis c'est pas facile.
T'es pas mal en néerlandais?
Ouais, je suis...
Ça, t'es bilingue.
Pas dire bilingue, mais presque.
Ouais, t'es bien, t'es pas mal. Sachez que nous allons parler de la CAN dans quelques instants pour ce match pour la troisième place demain soir à 21h entre la Tunisie et le Nigeria. Nous serons avec notre envoyé spécial Timothée Mémon. Dans une demi-heure, on parlera également du Mercato, toutes les dernières informations du jour. Il s'est passé énormément de choses, avec notamment il y a quelques instants la signature de Jérémy Morel qui a signé pour le Stade Rennais, lui qui a vécu une magnifique épopée avec Madagascar lors de cette CAN, quart de finaliste de la CAN. Mais nous évoquons donc le dossier Neymar avec cette information de la presse espagnole, du journal AS, quotidien madrilène. Aujourd'hui, forcément, on parle des tractations entre Neymar, le Paris Saint-Germain et le Barça. Et là, on nous propose cette équation. Neymar contre Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, plus 40 millions d'euros. Vous n'êtes pas d'accord dans le studio, c'est pour ça qu'on va entamer ce petit débat. On prend évidemment des précautions oratoires concernant cette information. Selon nos informations, il n'y a pas d'offre réelle sur le bureau de Nasser El Khelaifi. D'accord, pas d'accord, prise de contact, exactement. Qui fait le deal, qui ne fait pas le deal? Kevin, je crois que tu fais le deal.
Moi, je fais le deal. Même si je demande une petite rallonge de quelques dizaines de millions d'euros, mais je pense quand même que 40, 50, voire allez 70 millions plus Dembélé, quand même champion du monde, et Coutinho, parce que Coutinho, on nous parle du Coutinho du Barça, mais faut pas oublier que cette grande équipe de Liverpool qu'on adore tous, avant elle avait une star, c'était pas avant il y a 10 ans, avant il y a 2 saisons, elle avait une star qui s'appelait Coutinho. Et qui est arrivé au Barça en grande pompe. Donc, je pense pas qu'il a perdu ses qualités. On l'a vu encore à la Copa América. C'est un très bon joueur. Et dans le projet du Paris Saint-Germain, c'est un joueur qui a un peu plus, je pense, d'humilité que Neymar. Et qui pourrait faire un grand bien à cette équipe. Donc, Dembélé plus Coutinho plus de l'argent à la place de Neymar, moi je signe.
Si je suis comme ça brut, que je prends les chiffres de Coutinho, de Dembélé, qui ont été achetés par le FC Barcelone, plus déjà 40 millions d'euros... Pardon, mais on dépasse les 300 là.
Oui, non, mais c'est pour ça que pour moi, c'est très bien même.
Okay. Mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on parle d'argent. Mais quand est-ce qu'on va parler de terrain?
Ah, t'as raison, c'est
quand
vrai.
Quand est-ce qu'on va parler de ce qui se passe sur le rectangle vert? Aujourd'hui, je suis le PSG, Leonardo. D'ailleurs, Tourelle l'a dit, quelles sont mes priorités de recrutement? Ben, moi, je veux un 6, je veux un arrière-droit. Neymar, s'il part, en effet, je le remplace. Mais aujourd'hui, j'ai pas besoin d'avoir un Dembélé et un Coutinho dans mon équipe. C'est-à-dire que pour que mon effectif soit équilibré et que là j'ai un Alves qui est parti, Meunier qui reste une fin de contrat. Si tu me proposes un Semedo, là je dis
non.
Semedo, ok. Tu me proposes un Arthur dans la transaction et un Coutinho.
Sergi Roberto, tu prends?
Arthur, je prends un Coutinho, bien sûr que je le prends pour remplacer Neymar.
Non.
Ce que je veux dire, moi, c'est dans ma globalité de mon effectif. Et en plus, j'ai pas besoin d'argent en soi.
Bah si, quand même, pour acheter un 6.
Ah bah si.
Mais
si tu as besoin d'argent pour le faire plus financier.
Alors si t'as besoin d'argent, bah dans ce cas-là, tu fais un transfert de Neymar sec.
Non mais il pourra
et
pas.
Et puis
le
après, tu fais tes Milinkovic-Savic, tu fais ton Tonali, tu fais ton Idrissa Gueye si tu veux, et tu fais les recrues que tu choisis toi, ah pas bah, qu'on t'impose.
C'est marrant parce que Coutinho et Dembélé, mais tous si les clubs européens les veulent en soi.
Mais non, mais moi j'en ai pas besoin dans mon effectif d'avoir deux attaquants.
Oui, mais de ce mais tu as ton meilleur joueur.
Mais je le garde pour l'instant. Et
mais
puis
tu as ton meilleur joueur, il veut pas rester.
Mais il boude. Donc là, pour l'instant,
mais pour l'instant, Damien, c'est une partie de poker menteur. Mais si Neymar veut pas rester, il restera pas. On va le laisser en tribune pendant un an.
Ils donneront de l'argent. Et puis t'achètes pas ce que
ils n'ont
tu
pas
voudras.
D'argent. Et Neymar veut aller au Barça.
Et bah tu prendras d'autres joueurs qui t'intéressent vraiment au poste.
Tu parles son caprice. Rakitic, son caprice.
Tu
va
prendras
être, un Semedo, ça plaira pas.
Tu prendras
ça,
un Arthur si tu
ça
veux.
Ça plaira peut-être pas ni aux dirigeants parisiens ni aux supporters. Peut-être ni à Damien Perrinel, mais je peux te dire que son caprice, malheureusement.
Est-ce que tu
je dis pas que c'est bien.
Est-ce que tu
je dis malheureusement
que ça va plaire aux supporters du Barça?
Mais les supporters du Barça, ah t'inquiète pas, quand tu vas leur faire deux flip-flaps.
Ils l'ont encore
deux
bien mauvais.
Et un enroulé en Ligue 1. C'est toi-même qui disais que les supporters oublient vite.
Ah,
on en parlait plus tôt dans l'émission.
Mais au Barça, ils ont comme une belle rancune envers lui.
Les Barcelonais, c'est les mêmes. Deux flip-flaps et une enveloppée en lucarne, et t'as oublié.
Deux observations à vous donner.
Il en a mis quelques flip-flaps et quelques enroulés.
Deux observations. Oh, un petit peu en Ligue des Champions quand même.
Oui,
en face de
quoi,
peut-être en Ligue des Champions.
Neymar, s'il n'avait pas été blessé, le PSG aurait été en quart de finale minimum.
Quand il n'était pas blessé, en effet, s'il n'était pas blessé. Mais il a été suspendu 3 matchs. Il n'a pas joué les quarts de finale quand on avait besoin de lui. Il ne l'a pas fait.
Ok, on revient à nos moutons et d'ailleurs hein, proposez votre transaction hein, parce qu'on est en grande période de transaction là, entre le PSG et le Barça. Donc n'hésitez pas via le hashtag RMC Live. Il y a Carlito qui est d'accord avec toi et qui dit Coutinho plus Arthur plus 40 millions, là oui.
Mais Arthur, il vaut pas le prix de Dembélé sur le marché en fait.
Mais on s'en fout, il va les valoir
plus tard.
Mais
c'est Médo non plus.
Mais
c'est Médo jamais.
Putain, mais aujourd'hui,
c'est Médo, il verra. Mais
c'est avec eux que je vais gagner peut-être. C'est avec ces deux joueurs-là
peux
gagner.
Le football aujourd'hui, malheureusement, encore une fois, je le répète, ce serait pas mon choix. Mais c'est que du financier. C'est que du financier. Tu peux pas prendre Semedo et Arthur parce que t'as besoin d'un arrière droit et d'un arrière gauche alors que Neymar vaut, entre guillemets, 200 ou 250 millions d'euros. C'est pas possible.
Mais aujourd'hui, tu t'es d'accord avec moi que ce sont les meilleures équipes qui gagnent et pas l'équipe qui a le plus d'individualité.
Non, mais on
t'es
est d'accord.
T'es d'accord avec moi. Donc aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, je suis Tourelle. Il l'a encore dit ce soir. Sa priorité, c'est d'avoir un 6. Il veut un 6. Et là, donc, il y a Diallo qui est arrivé.
Mais si tu me dis que tu veux mettre Busquets d'il y a 4 ans ou Iniesta d'il y a 6 ans dans la balance, je te dis oui, mais là, tu me parles d'Arthur et Semedo.
Bah, bien sûr,
Arthur et Semedo.
Parce que tu vas pouvoir revendre plus cher encore après.
Mais non, mais Arthur et Semedo, c'est pas échangeable contre Neymar.
C'est vrai que Arthur a gagné la Copa América titulaire indiscutable avec le Brésil, mais.
Oui, mais tu sais ce que je veux, tu comprends, fais pas comme si tu comprends pas ce que je te dis. Le PSG, ok, ils ont besoin d'un 6, ok.
Ouais, mais c'est pas un 6, Arthur, hein, quand même, hein.
Bah là, il a joué 6,
ouais, bon,
il a joué
milieu,
à 2
on va dire,
ouais,
un milieu,
c'est un peu plus un 8, en tout cas, au Barça, cette saison, c'était
ouais, bon,
ça.
Ouais, bon. Ils ont déjà paré d'être.
Dans le schéma
8.
Du Brésil, il avait joué devant la défense.
Moi, je pense pas que tu puisses échanger Neymar contre un arrière droit.
Mais de toute façon, c'est histoire d'échange. Quand tu vas sur la centrale et qu'on dit, j'échange ma Xantia. Et puis, je veux une
c'est
VM,
qui l'Axantia,
une série 3. Forcément, ces histoires-là, généralement, ça pue un peu. C'est que l'Axantia, il y a les freins qui grincent.
Hein. Bon, mais là, ça pue pas parce que Neymar ne veut pas rester. Donc, il faut lui trouver une solution. Et il ne veut aller, pour l'instant, en tout cas, qu'au Barça.
Mais ils peuvent pas le payer.
Mais ils peuvent pas le payer,
tu sais
mais ils
quoi,
peuvent
moi, si je veux une Ferrari, hein, mais je peux pas me la payer. Bah, je l'achète pas.
Mais ouais, mais t'as, non, tu, là, excuse-moi.
Si.
Là, tu fais la mauvaise tête, là. Parce que tu sais très bien qu'au final, ça va se faire.
Dans les conditions du PSG.
Que Neymar aura décidé.
Non, que le PSG aura décidé.
On verra. J'espère, mais on verra.
Bon, vous êtes en train de me proposer, le hashtag RMC Live est en train de surchauffer, hein, évidemment, oui. Ce petit jeu vous intéresse. Adriano da Silva me dit Semedo plus Coutinho plus 60 millions d'euros, je vais les chercher de suite avec le break. Voilà ce qu'il me dit. J'ai Richard Oxdi qui me dit Coutinho plus un milieu défensif, genre Arthur ou Rakitic. Sinon, j'ai Oumar Diallo qui me dit le Barça n'a pas réussi à cadrer Dembélé, alors imaginez le Paris Saint-Germain.
Ça, c'est vrai.
Sinon, j'ai Xoni qui me dit Arthur plus Semedo plus 100 millions et le PSG serait gagnant à mon avis.
là, 100 millions, attention, là, je parlais de 40 millions. Moi.
Oui, bien sûr. 100 mais
millions, c'est une millions en plus, t'as dit. Voilà.
Non, mais 100 millions, quand même, c'est énorme.
Et j'ai aussi, je vais essayer de retrouver cette, ce petit tweet parce qu'il était, il était intéressant.
C'est un échange de stock options, là.
Oui, il y a All for One qui me dit sympa les trocs, mais les joueurs, ils en pensent quoi? Qu'en pense aujourd'hui quand on voit que Bartomeu, le président du Barça, a dit que Dembélé était meilleur que Neymar en conférence de presse?
Oui, oui, oui.
C'est peut-être de la communication, mais il l'a dit, que c'était l'avenir du FC Barcelone. Quand on voit que l'agent de Coutinho avait réagi ces derniers temps en disant « j'ai l'impression que le Barça a un peu un double discours avec Philippe Coutinho », les joueurs, ils ont peut-être aussi envie de rester au Barça, non?
Oui, mais tu sais, Strootman voulait rester à la Roma. Tu sais qu'à l'époque, Thiago Silva voulait rester au Milan AC.
Oui, Drogba voulait rester à l'OM avant de partir à Chelsea.
Voilà.
C'est ça.
Donc, bon, les joueurs, malheureusement, en tout cas, enfin, malheureusement. Alors là, pour le coup,
ça se voit moins, ça quand même.
Pas de plainte vraiment. Bah,
ouais, mais c'est ta carrière quand même. Enfin, je ne vois pas les plaintes.
Oui,
c'est leur métier.
Enfin, tu es dans une impasse en ce qui concerne Dembélé et Coutinho, je pense. Tu es dans une impasse au Barça. On te propose le Paris Saint-Germain. Aller jouer avec Verratti, Mbappé au Parc des Princes, vivre à Paris, c'est pas non plus
c'est pas
la pénitence.
OK, mais
j'ai cru voir que Liverpool était très chaud pour un retour de Coutinho également.
Ah là, là.
Et peut-être que Coutinho veut faire du réchauffer lui aussi, hein. Donc
non, je pense que pour Coutinho ce serait super. Vraiment.
Bien sûr.
J'y pense moi depuis plusieurs semaines. Coutinho de retour avec les Reds contre une belle somme pour le Barça qui pourrait c'est la ça. Réinvestir sur Neymar. Je pense que ce serait une bonne solution pour tout le monde.
Johan Chatu nous dit via le hashtag RMC Live. Je suis pas forcément d'accord avec toi, Johan, quand même, là. Sergio Roberto plus Rakitic plus 80 millions d'euros, je trouve ça correct. Difficile de remplacer Neymar par Sergio Roberto
non,
et Rakitic.
Sergio Roberto, non, les gars. Sergio Roberto, non, c'est pas meilleur que Vanderbilt. Hein.
Oui, et en plus, Sergio Roberto, ça pourrait être très drôle, évidemment, quand...
Je pense que son meilleur souvenir à Sergio Roberto, c'est la remontada, pour le coup.
Ouais, c'est clair, ça pourrait être marrant de lui poser la question, en tout cas. Bon, voilà ce que l'on pouvait vous dire sur Neymar,
j'ai
évidemment.
J'ai quelque chose pour toi, Jean-Christophe.
Ouais, vas-y.
Alexander Arnold plus Fabinho au PSG. Neymar, lui, retourne au Barça. Et Coutinho retourne.
Ouais,
retourne à Liverpool.
Ouais, mais là,
c'est pas mal.
Ouais, mais
tout le monde a ce qu'il veut.
Mais ça devient beaucoup trop compliqué.
Ah, c'est un jeu à trois bandes. Là, c'est trois bandes. C'est du billard de haut niveau.
Ouais, là, le billard de haut niveau, je suis pas très bon. Bon, voilà ce que l'on pouvait vous dire sur Neymar, quoique. Thomas Tuchel, parce que ça c'était un petit peu la fiction, mais la réalité, Thomas Tuchel a parlé aujourd'hui de Neymar. Vous l'avez vécu, c'était il y a 45 minutes en direct sur RMC, le Paris Saint-Germain, qui s'est donc imposé 6 buts à 1 face à Dresde, un club de division 2 allemande avec un triplé de Kylian Mbappé. Et Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a été longuement questionné sur le cas Neymar. On va me dire en régie tout de suite si ça marche ou si je continue de combler. Il n'y a aucun problème, je peux continuer de parler jusqu'à minuit, hein. Dites-moi en régie. Pour l'instant, il faut que je continue de parler. Alors, on va retrouver Loïc Tanzi, notre envoyé spécial en Allemagne,
oui,
vécu cette interview de Thomas Tuchel, que on en reparlera d'ailleurs dans quelques instants, et vous l'entendrez, Thomas Tuchel. Comment ça s'est passé? Comment tu l'as trouvé? Et en tout cas, l'ambiance générale dans le studio RMC, on se disait, voilà, il a été courageux de rester aussi longtemps devant les journalistes à répondre à de nombreuses questions sur Neymar.
Il est resté très longtemps, on l'a fait 12 minutes, si je dis pas de bêtises, ce qui pour une zone mixte est très long pour Thomas Tuchel, qui fait normalement des conférences de presse très longues comme ça avant match. Là, il faut dire aussi qu'on était trois journalistes en face de lui à être venus en Allemagne, trois journalistes qu'il connaît, il a l'habitude de nous voir à chaque fois en conférence de presse et dans les déplacements, c'est pour ça qu'il est resté aussi longtemps, même si à la fin on lui a dit allez, une dernière question s'il vous plaît Thomas, une dernière question s'il vous plaît Thomas, et il est très, franchement, je l'ai trouvé très calme. Il savait très bien qu'on allait l'interroger sur Neymar à la fin de cette zone mixte. Il savait très bien qu'il allait devoir s'expliquer. Il s'était expliqué juste avant aux télévisions allemandes, juste avant à la presse écrite allemande, et ensuite il est venu nous voir en zone mixte. Et donc très calme pour expliquer tout simplement que la situation, on la connaît, il l'a répété, il l'a confirmé une nouvelle fois. Ben Neymar, il veut partir. Il le sait depuis très longtemps. Il le sait avant la Copa América. Justement, juste sur ce petit passage, je suis en train d'essayer de confirmer avec lui que c'est bien ce qu'il a voulu dire. Parce qu'on a un tout petit petit doute sur le fait.
On avait un doute aussi.
Voilà. Donc je suis en train d'essayer de confirmer avec la communication du club qui va directement demander à Thomas Tuchel de savoir si c'est vraiment ce qu'il a voulu dire, si vraiment Neymar lui a dit avant de partir au Brésil qu'il voulait quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, ou si il parlait plutôt du retard du Brésilien qui a séché l'entraînement depuis une semaine et qui est revenu seulement hier au camp des loges. Donc je suis en train de confirmer ça, ça va m'être confirmé dans les minutes à venir, le temps que la communication revienne vers moi. Mais à part ça, sinon c'est très limpide, c'est très clair. Il connaît la situation, il sait aujourd'hui qu'il y a une grande chance que Neymar quitte le Paris Saint-Germain. Il a rappelé une nouvelle fois également qu'il s'adapterait avec Neymar si Neymar venait à rester au PSG à la fin de la saison. Mais aujourd'hui, clairement, la tendance, c'est un départ. La seule solution, il faut que le FC Barcelone fasse cette offre. Il faut enfin que le FC Barcelone passe à l'attaque et pour voir si jamais le club espagnol a les reins assez solides pour faire venir Neymar. La balle est dans le camp des Espagnols aujourd'hui.
Ouais, et je vous propose justement d'écouter, merci beaucoup Loïc Tanzi, d'écouter Neymar, d'écouter Thomas Tuchel au sujet de Neymar. C'était donc il y a quelques instants.
Ils se ressemblent un peu,
et vous l'avez vécu en direct sur RMC au micro de Loïc Tanzi. Thomas Tuchel.
Neymar, est-ce que Neymar ira en tournée en Chine? Est-ce que
je pense oui. Dans un moment, ouais. Je pense oui, parce qu'il est rentré hier, oui, hier. Et maintenant, comme chaque joueur, il fait 2 jours de test. C'est intensif, mais c'est nécessaire parce que on doit avoir les résultats pour la planification de le workload de Ney pour cette semaine, parce que les autres ont travaillé pour une semaine pour être prêt de jouer aussi aujourd'hui. Et c'est le même pour Ney, et après, il est prêt, à mon avis, pour être avec nous en Chine.
Vous avez été déçu de ne pas le voir la semaine dernière de retour à l'entraînement?
De son état, oui, je suis toujours déçu si un joueur est en retard. Mais c'est clair entre nous. Et c'est une chose entre le club et Ney maintenant. Et nous travaillons ensemble. Et les notre joueur, en ce moment, il est là. Et... Okay,
depuis quand vous savez qu'il veut partir du PSG?
Oui, on sait ça.
Depuis mais... la fin de saison dernière? Il vous avait prévenu avant de partir à la Copa América.
Ah oui.
Et vous espérez le garder encore? Vous pensez qu'il va rester à Paris ou c'est très incertain?
Honnêtement, je ne sais pas que ça va venir. C'est une chose entre le club et Ney. Et je suis l'entraîneur et il est mon joueur. S'il est dans le vestiaire, il est mon joueur et je vais travailler avec lui.
Et vous êtes prêt à envisager l'avenir sans lui aussi?
Je suis prêt pour tous. Moi, je dois adapter à tous les choses, mais on doit être flexible.
Est-ce que vous vous donnez une échéance quand même pour savoir s'il reste ou s'il part à Paris? Vous n'allez pas attendre le 31 août, le 1er septembre, une deadline?
Non, c'est une
deadline. Une limite. Deadline.
Non. Je ne parle pas des choses avec lui. C'est le club.
Parce que s'il part, il faut peut-être le remplacer.
Moi, c'est une chose pour le club, vraiment. Ouais. Pas pour moi.
Ça vous concerne?
Je suis calme. Moi, oui, mais je suis calme.
Hier, vous avez pu parler un peu avec Neymar? Vous avez pu vous entretenir un petit peu?
Oui, mais seulement, ok, ouais. Bienvenue, et voilà, on travaille. C'est toujours comme ça, non? Dans beaucoup de clubs. Et pour ça, on ne peut pas prendre notre tête. On travaille. On travaille avec lui. S'il est là, il est là. Et voilà. Et c'est ça. Non, c'est pas difficile parce qu'on donne. On a notre planification avec tous les joueurs. Et beaucoup de joueurs sont là. C'était plus compliqué la dernière saison.
Il peut participer au match contre samedi? Neymar peut être? Non, pas encore.
Je ne sais pas, mais je pense un peu trop, mais on doit attendre. Il travaille maintenant et voilà.
Et voilà pour les premiers propos de Thomas Tuchel au sujet de Neymar. Ali Corleone nous dit via le hashtag RMC Live, moi j'échange Neymar contre Kevin Diaz plus Damien Perinel.
Bah, je peux dire que ça va être football. Hein. Ça va être football. Ouais, ça va dire pour sa gueule, ça va faire des passes. Là, ça va être bien.
Là, ça joue collectif et ça joue pour le maillot.
Exactement. Nadir et nous appelle au 32-16, supporter du Paris Saint-Germain. Bonsoir, Nadir.
Bonsoir.
Salut, Nadir.
Qu'avais-tu envie de nous dire dans l'after ce soir?
Bah, en fait, ça fait, on va dire, à peu près 15 jours que là, je vous écoute. En fait, j'ai été assez mitigé par rapport à Neymar. Je ne sais pas s'il devait vraiment partir ou pas. Et du coup, en fait, en réfléchissant, ils ont beau donner Coutinho, Dembélé ou n'importe qui, en fait, faut pas que Paris lâche l'affaire. Faut qu'il montre son autorité à toute l'Europe et qu'il montre que voilà, c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question d'honneur, on va dire. Si le PSG veut grandir et veut montrer son institution à toute l'Europe et montrer que voilà, elle est capable de garder les grands joueurs, ça passe par des clashs comme ça avec des grands joueurs, on n'a pas le choix.
Je suis assez d'accord avec toi, Nadir. C'est le moment de montrer justement. Là, ils ont une fenêtre pour se faire respecter dans l'Europe entière. Et généralement, quand on critiquait les joueurs à Paris qui se moquaient de l'institution, du club, et ben là, ils ont une occasion en or justement de prouver le contraire et que maintenant il y a de la fermeté, mais aussi bien pour les joueurs du club que pour les autres clubs européens, que maintenant, voilà, c'est plus le nouveau riche qui est là. Le nouveau riche, il a assez dépensé d'argent et il comprend comment ça fonctionne maintenant le foot.
Non, mais après, moi, je suis pas d'accord avec vous. Hein, chacun son avis, mais j'ai vu à l'époque du grand Manchester United, lorsque Cristiano Ronaldo a décidé de partir au Real, bah, il est parti au Real. Je vois, c'est pas du tout faire. Au contraire, je trouve que le Paris Saint-Germain, en disant Neymar, écoute-moi mon petit gars, tu veux pas rester chez nous, t'as beau être le troisième meilleur joueur du monde, je le répète, c'est le troisième meilleur joueur du monde, tu t'en vas. Tu t'en vas parce que le club, il veut que des joueurs qui sont motivés pour jouer pour ses couleurs, pour son maillot et pour ses supporters. Et je vois pas en quoi le PSG se rabaisse en disant à Neymar, tu y vas, tu t'en vas.
Mais parce que la différence,
et on trouve
c'est
une solution. Laisse-moi finir. Même si on n'a pas nos 300 millions, parce qu'aujourd'hui, il a jamais valu 220 millions, parce que je rappelle qu'une clause était faite pour être, entre guillemets, un montant extravagant que personne n'allait
payer. Pour dissuader le PSG.
À la base, c'était une clause de dissuasion. Et ça, on l'oublie. Ah oh ouais, mais Neymar, c'était bien à 220 millions. Non, les gars, c'était pas bien. Ça a déréglé le marché. On me dit sur Twitter, ah mais non, ça n'a pas déréglé le marché, c'était une bonne affaire. Il s'est avéré que financièrement, c'est une bonne affaire. Mais ça a déréglé le marché. Et c'était pas une clause qui était faite pour être payée. Parce que le Barça, sinon, l'aurait mis beaucoup plus cher. C'est pas grave. Ça, c'est un autre sujet. Mais, je vous dis, pour moi, je vois pas en quoi le PSG se rabaisse s'il vend Neymar maintenant ou s'il trouve une solution avec un champion du monde. Et un titulaire du Brésil ou autre combinaison possible, puisque de toute façon Neymar ne veut pas rester. Neymar, tu veux pas rester, mon gars, même si je t'adore. Tu prends tes affaires et tu dégages.
C'est ça le truc, en fait, c'est que dans ton exemple avec Cristiano Ronaldo, Manchester l'a vendu et a trouvé son compte. Aujourd'hui, le PSG
avec Coutinho et Dembélé, si tu trouves ton compte.
Non, ils ne trouvent pas leur compte aujourd'hui. C'est pas leur choix.
Il a dit Jean-Christophe, puisqu'on veut parler de chiffres,
ce n'est pas ce qu'ils veulent.
Ça fait équivalent à 300 ou 350
aujourd'hui,
millions de d'actifs.
Celui qui contrôle tout, c'est le PSG. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, ils veulent vendre Neymar, ils le vendront.
J'ai pas l'impression que ce soit lui. Là, c'est Neymar qui fait ce qu'il veut. Là, en
bien sûr, c'est Neymar qui fait ce qu'il veut.
On lui laisse le choix et on lui laisse l'opportunité.
Neymar, depuis le. Après, Nadir, moi, dans le meilleur du monde, je suis d'accord avec vous.
Le mot
les gars.
De la fin. Hein,
dans le meilleur du monde, je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, et depuis le premier jour, Nadir, où Neymar a signé au PSG, c'est lui qui maîtrise tout. Pourquoi tu veux que ça soit autrement? Ce sera pas autrement.
Mais quitte à faire, mais par contre, ce que je ferais, par contre, au niveau de la négociation entre Paris et le Barça, par contre, je serais vraiment très, très audacieux dans les échanges. Qui t'a demandé 3 joueurs, qui t'a demandé, parce que eux, ils le veulent. Ils sont prêts à tout pour récupérer Neymar. Par contre, là, je pourrais jouer là-dessus en récupérant un maximum de joueurs, quitte à ramener 2 joueurs, quitte avec une grosse somme d'argent, ou même 3 joueurs. Où là, oui, effectivement, ça peut valoir le coup, mais je laisserai pas le truc se faire aussi facilement. J'essaierai de tenir tête un maximum possible.
Ouais, mais il faut quand même préparer le mercato, Nadir. Il ne faut pas perdre de temps.
Mais on a quand même l'impression que le Paris Saint-Germain n'a pas envie de se faire avoir et de se sentir lésé dans cette histoire. Merci beaucoup, Nadir, d'avoir composé le 32-16.
Merci, Nadir.
À bientôt dans l'after sur RMC. Dernière information concernant le Paris Saint-Germain. Selon les informations d'RMC Sport, le permis de construire pour le futur centre d'entraînement du PSG a été enfin signé par le maire de Poissy. Les travaux vont pouvoir débuter en fin d'année pour une date de livraison prévue à l'été 2022. Restez bien avec nous, dans quelques instants nous allons parler de la CAN et notamment de ce match pour la 3ème place, car oui, à la CAN, il y a un match pour la 3ème place entre la Tunisie et le Nigeria. On retrouvera notre envoyé spécial Timothée Mémon qui est actuellement en Égypte. À tout de suite sur RMC.
RMC l'Afterfoot, Jean-Christophe Drouet.
23h24, nous sommes ensemble jusqu'à minuit avec Damien Périnel, Kevin Diaz. Dans quelques instants, nous allons évoquer le mercato. Toutes les informations du jour vous seront comptées par notre journaliste Anthony Reich qui viendra dans le studio RMC. Vous rappelez que le Paris Saint-Germain s'est imposé 6 buts à 1 face à Dresde, club de deuxième division allemande. 6 buts à 1 donc, avec un triplé de Kylian Mbappé à la fin de la rencontre. Thomas Tuchel a dit beaucoup de choses concernant Neymar. Vous pouvez aller sur notre site rmcsport.fr. Nous avons diffusé deux fois cette interview. Mais tout de suite, nous allons parler de la CAN, car demain, à 21h, vous allez suivre ce match sur RMC. Il y a la rencontre pour la troisième place de cette CAN entre la Tunisie et le Nigeria. La grande finale, ce sera vendredi soir entre l'Algérie et le Sénégal. Nous retrouvons Timothée Mémon en Égypte. Salut Timothée.
Salut Jean-Christophe, salut à tous.
Alors, est-ce qu'il y a un intérêt particulier pour ce match entre la Tunisie et le Nigeria demain soir?
Il est difficile à trouver cet intérêt. C'est vrai que la CAN fait partie de ces compétitions où il y a un match pour la troisième place. C'est pas le cas de l'Euro, par exemple, qui est l'équivalent de la CAN en Europe. C'est la compétition continentale. Tu sais, tiens d'ailleurs, pourquoi il y a pas de match pour la troisième place à l'Euro?
Ça a pas été supprimé parce que ça n'avait pas d'intérêt. Non, c'était pas pour ça.
Absolument, ça a été supprimé à la demande des Français, figure-toi. En 1982, lors du Mondial, souviens-toi, la France se fait éliminer, et de quelle manière, par l'Allemagne, et ensuite perd le fameux match pour la troisième place contre la Pologne 3-2. Défait, dépité, Michel Hidalgo et Michel Platini avaient à l'époque demandé à la FIFA, pour le prochain Euro qui allait se dérouler en France, de supprimer ce match censé être un petit peu le match de trop. Parenthèse refermée, ce match, il est souvent considéré justement comme un match inutile pour les joueurs. Les joueurs, après avoir perdu une demi-finale, et ceux qui sont autour de la table pourront te le dire, ont plutôt envie de rentrer chez eux plutôt que de rester dans un pays étranger, de ressasser l'élimination et la défaite. Alors, il a fallu trouver des arguments pour Alain Giresse et Gernot Rohr, deux entraîneurs francophones de ces deux formations que sont la Tunisie et le Nigeria. Alors, du côté d'Alain Giresse, on a un discours très volontariste. La troisième place, ça vaut quelque chose. Sur un podium, il y a trois places. Aux Jeux Olympiques, il y a trois places. Donc, on veut être sur la troisième place de ce podium et pas à la place du con, comme il l'a dit en conférence de presse, à la quatrième place. Du côté du Nigeria, Gernot Rohr est venu avec un discours un petit peu moins volontariste. Il a dit, c'est un match pour le plaisir, et il a expliqué qu'il ferait probablement un petit peu tourner. On y reviendra. Bref, pour ce qui est de l'intérêt de cette rencontre, eh bien, il est très limité. L'Égypte ne se passionne pas pour cette compétition, ou plutôt ne se passionne plus pour cette compétition depuis l'élimination de son équipe. J'avais fait des conférences de presse de la Tunisie avant les demi-finales. Je peux vous dire que celle de ce matin, il y a bien 50% du contingent de journalistes tunisiens qui sont repartis au pays. Quelques rares journalistes nigérians. Bref, il ne devrait pas y avoir un grand intérêt pour un match qui va se dérouler en plus à l'extérieur du Caire, au stade de Salam, qui est aux portes du désert, au nord-est du Caire. Ça va être un petit peu compliqué. On ajoute à ça quelque chose dont j'ai pas parlé depuis le début de la compétition. C'est ces fameuses fan ID. Ces fan ID, je sais pas exactement quand est-ce que ça a été mis en place. Ça n'existait pas pour la Coupe du Monde 2010, j'en suis sûr. Ça existait pour l'Euro 2016 en France, pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Vous savez, c'est ce passeport du supporter qui lui permet de venir sur le territoire et ensuite d'acheter des places. Eh bien, les stades sont totalement vides. Il y a des milliers de places à vendre, mais personne ne peut les acheter parce qu'il y a toute cette démarche de fan ID à faire avant. Résultat, les stades sont vides.
Ouais, et c'est bien malheureux, évidemment, pour cette CAN. Le stade, on espère, sera un peu plus garni. Tu nous en parlais hier. Dans cette finale entre l'Algérie et le Sénégal, mais pas sûr qu'il soit plein. Évidemment, tu nous parlais de Gernot Rohr, d'Alain Giresse. On va écouter le coach du Nigeria, Gernot Rohr, qui nous parle de ce match pour la troisième place.
C'est un match pour le plaisir et pour aussi le spectacle, j'espère, parce que nos trois derniers matchs étaient des matchs de haut niveau, de bonne qualité, pour les joueurs et aussi pour les spectateurs. Et j'espère que ce match sera encore dans cette série de matchs de haut niveau, avec un bon état d'esprit, comme on a eu dans les trois derniers matchs, avec aucune expulsion, avec aucune blessure grave, et que ce soit une belle fin pour mon équipe.
Il sert à rien, ce match?
pour moi, il sert absolument à rien. Vraiment, les joueurs ont envie de prendre peut-être quelques jours de vacances, ont envie de retrouver leur club dans quelques semaines maintenant, voire dans quelques jours pour certains. Je vois vraiment pas pourquoi ils suppriment pas, pourquoi la CAN ne fait pas comme a fait l'UEFA et pourquoi la CAF ne supprime pas ce match de troisième place. Pour moi, ça devrait pas exister. À part au JO, où ça a son importance d'avoir la médaille de bronze, c'est historique. Mais alors vraiment, dans les compétitions internationales.
T'as qu'une seule envie, c'est de retrouver ta famille, de partir en vacances. Déjà, t'as eu un mois de vacances en moins par rapport à tes potes.
En plus, ils sont sympas avec le match dans le désert.
C'est ça. Déjà, en demi-finale, t'avais personne dans le stade. Là, pour trouver une motivation, ça va être très compliqué. Mais il y a la Copa América qui fait un match pour la troisième place aussi, il me semble. D'ailleurs, c'est là où
exactement. Messi, a été exclu et c'est l'Argentine qui a terminé troisième.
Voilà. Mais bon, bah, bravo. On va s'en souvenir dans 20 ans que l'Argentine a fini troisième.
Ouais, se retrouver sur la boîte, sur le podium, bon, ça n'a pas trop d'intérêt au foot, quoi. Bon, ce Tunisie, Nigeria, en tout cas, va bien exister. On va écouter maintenant Alain Giresse, le coach des Tunisiens, sur cette rencontre.
L'objectif, c'était, en ce qui concerne la Tunisie, évidemment, de franchir ce fameux palier, puisque des quarts de finale, c'était une obsession un petit peu qu'il y avait. Ça a été réalisé, mais c'est pas une fin en soi. Et demain, on se remobiliser sur ce match à venir, et c'est l'objectif principal à la veille de cette rencontre.
Et voilà, terminé sur une note positive. Mais Timothée Mémon, la question forcément que l'on se pose, est-ce que les deux entraîneurs vont faire tourner et donner du plaisir, du temps de jeu aux joueurs qui n'ont peut-être pas beaucoup joué durant cette compétition?
Il y aura deux écoles entre Garnot Ror et Alain Giresse qui se connaissent très très bien pour leurs années bordelaises communes. Alain Giresse, lui, l'a dit, il mettra la meilleure équipe possible. Il l'a d'ailleurs expliqué, c'est celui des deux qui estime que ce match a une véritable importance. Il veut prendre la troisième place, il veut confirmer le statut de la Tunisie qui, au classement des meilleures équipes du continent africain, est à la deuxième place, au classement FIFA. Elle est à la deuxième place, la Tunisie. Elle veut confirmer ce statut. Résultat, il n'y aura pas de turnover côté tunisien. En revanche, du côté du Nigeria, il faut s'attendre à une équipe mixte. On se souvient que Garnot Ror, lors du troisième match de poule, avait largement fait tourner son effectif, changeant notamment son gardien de but. Il l'a confirmé tout à l'heure. Il a dit, jusqu'à présent, dans cette compétition, j'ai utilisé 21 des 23 joueurs. J'aimerais que les 23 y participent. On peut donc s'attendre à ce que ce soit le troisième gardien qui joue dans les bois pour cette formation du Nigeria. Et puis, pas mal de joueurs, une équipe mixte avec probablement Obi Mikel qui devrait être titulaire pour ce qui peut être potentiellement l'un de ses tout derniers matchs avec cette sélection et avec cette jeune équipe qui a de l'avenir, qui est prometteuse, cette équipe du Nigeria. L'occasion peut-être aussi de voir des joueurs qu'on connaît moins.
Voilà à quoi peut servir ce match pour la troisième place. Donner du temps de jeu.
J'essaie d'ouvrir un petit peu le débat.
Mais oui, merci beaucoup Timothée et Kevin.
Non.
Non, il t'a pas convaincu.
Non. Non, mais pourtant il a été bon, hein, Timothée, mais... Non, et après, tant mieux, en tout cas, pour les Nigériens.
Tu joues en équipe de France, tu joues un euro, t'as pas joué de l'euro. Il y a ce match pour la troisième place.
Là, c'est sympa, mais je vois pas l'intérêt pour nous.
Ah oui, ok.
Tu vois, ou pour les spectateurs égyptiens d'aller voir ce match parce que il y a deux Nigériens qui n'ont pas encore participé à la CAN.
Mais même en équipe de France, regarde ce qui s'est passé, comme l'a dit Timothée, en 82, ils ont perdu 3-2, même s'ils avaient gagné, je pense que très franchement, ils en avaient plus rien à faire. Ouais. T'es, là, en plus, t'as pas joué. Alors. Parce que tu dis que t'as pas joué de la compétition. Et justement, c'est encore plus dur de rester une semaine de plus pour éventuellement jouer un match de coiffeur. Non, allez, c'est bon, on rentre à la maison, on part en vacances et on va
voir. Mais merci Timothée, t'as été bon.
On a tout tenté, Timothée, reste avec nous, parce qu'on va quand même évoquer évidemment cette finale.
Il faut que j'arrive à me convaincre d'y aller demain aussi.
Et tu y seras, la rencontre, c'est à 21h. Parlons de cette finale, car là, évidemment, il y a énormément d'enjeux. L'Algérie, qui compte une CAN dans son histoire, c'était dans les années 90, le Sénégal, qui n'a jamais remporté cette compétition, une seule finale. Et c'était en 2002, on en parlait hier, notamment. Martial nous appelle au 32-16, supporter du Sénégal. Salut Martial.
Salut les amis, salut Jean-Pierre, salut Damien.
Salut Martial.
Coucou à tous mes potes de Dakar là, qui écoutent, là. Papa Chimer Diop dont le gamin vient de naître. On est chaud patate là, on est prêt, on attend là, on espère cette finale. Et moi ce que je trouve sympa, si tu veux, c'est que tu viens d'interviewer Garnot Ror et Alain Giresse. Demain c'est Belmadi et Aliou Cissé que tu vas interviewer pour la finale. Et ça c'est un signe, c'est sympa. Ça veut dire que les coachs africains, avec un super staff, je sais que
Régis Bogard qui est un très bon entraîneur aussi et est avec Aliou Cissé pour préparer ça depuis plusieurs années. Ça se prépare patiemment, ça se construit, ça se bâtit, ça met en place des systèmes de jeu. C'est vrai que c'est encore pas encore flamboyant, c'est vrai qu'ils nous font peur, mais ils se sont préparés physiquement, mais ils se sont préparés tactiquement et mentalement. Il faudra être là pour la gagner, parce que c'est cette année qu'on la gagne, moi je le dis.
Ok, Martial. Alors juste une chose, c'est la dernière fois que tu m'appelles Jean-Pierre, Martial. C'est Jean-Christophe, mais j'ai eu beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup de Jean-Charles, j'ai eu beaucoup de...
Écoute, excuse-moi Jean-Christophe,
c'est l'émotion.
Et Martial, tu as dit des coachs africains, certes, bien sûr, mais aussi un petit peu Val-de-Marnais, donc un petit coucou à la ville de Champigny-sur-Marne, qui a quand même la
bien
particularité
sûr.
D'avoir vu ces deux entraîneurs grandir.
Et ça, c'est super. T'as quand même là-bas des infrastructures qui se préparent, t'as des jeunes qui jouent partout, on a envie d'y aller, quoi.
Martial, j'ai une question à te poser.
On a envie de la brailler cette canne, et puis franchement, ce serait pas mal, quoi, après avoir perdu au carton jaune en quart de, pour pas avoir accédé à la Coupe du Monde, enfin au phase finale de la Coupe du Monde.
Ouais.
Là, on mérite d'y aller, là.
Martial.
Martial, écoute Jean-Pierre. Tu vas nous écouter, voilà, je t'ai coupé. Voilà, c'est comme ça. Quand on m'écoute pas, je coupe. Voilà, c'est Jean-Pierre qui fait un petit peu la tronche. Martial, je sais que t'es en train, parce que c'est marrant, sur mon petit écran, je vois que Martial, il y a le modulateur, il est encore en train de parler. Voilà, Martial, tu n'es plus à l'entête. Ça y est, il a arrêté. Martial, Damien Périnel, ici présent, a une question pour toi. Écoute, je te remets à l'antenne.
Vas-y.
Martial, selon toi, le Sénégal est-il armé d'un point de vue collectif, je parle, pour battre cette équipe d'Algérie? Parce qu'aujourd'hui, la grosse force de l'Algérie, c'est son collectif. On a pu voir précédemment dans d'autres sélections où le Sénégal avait beaucoup de très bonnes individualités, mais qui avait du mal à se mettre au service de l'équipe. Et on a l'impression que c'est un peu plus le cas. Est-ce que ça va aller mieux demain, pour la finale, et qu'ils vont être prêts vraiment à faire qu'un?
Oui, c'est paradoxal d'ailleurs ce que tu dis, parce que finalement on a certainement l'un des meilleurs joueurs du monde qui est Sadio Mané, qui se met au service de l'équipe, qui doit maintenant trouver son juste équilibre en se donnant toute sa puissance et se mettre au service de l'équipe, et il faut qu'il donne toute la puissance demain. Moi je pense que cette équipe elle est construite depuis plusieurs années, donc collectivement il y a vraiment un collectif et il y a un fond de jeu. D'ailleurs je pense que ils se sont mis la pression eux-mêmes, on leur a dit depuis le début qu'ils étaient favoris, quoi, et ils arrivent quand même en finale aujourd'hui, maintenant faut la gagner. Et je pense que ce travail tactique, technique, physique qui s'est préparé depuis longtemps, Omar Daff le disait hier aussi très bien dans l'émission, j'espère qu'il va vraiment payer, parce que c'est le fruit de tout un travail de fond. J'entends bien le supplément d'âme, la force qu'il y a au niveau de l'Algérie aujourd'hui, et j'ai plein de copains algériens que je salue aussi. Mais moi, vraiment, je pense que c'est le tour du Sénégal, quoi. Faut y aller, les gars.
Bon, en tout cas, merci Martial de nous avoir appelé. On te souhaite une belle finale. Ce sera vendredi soir à suivre sur RMC à partir de 21h face à l'Algérie. Salut Martial. Timothée, tu as vu une grande différence entre les deux équipes au niveau du football proposé. C'est vraiment diamétralement opposé entre l'Algérie et le Sénégal.
Diamétralement opposé, peut-être pas, parce que je trouve qu'il y a quand même ce dénominateur commun qui est la star de l'équipe, avec d'un côté Sadio Mané, de l'autre Riyad Mahrez, des joueurs qui ont été capables de débloquer les situations. Sadio Mané n'a pas forcément été ce leader qui a porté le Sénégal à bout de bras, mais il a quand même fait une canne sérieuse au regard du nombre de matchs qu'il a dans les jambes cette saison. Il a su aussi débloquer des situations. Riyad Mahrez, l'a prouvé encore une fois en demi-finale, il est probablement l'homme de cette compétition, probablement le meilleur joueur de cette CAN 2019, on le saura après la finale, mais ça ne fait guère de doute. Il y a donc ce dénominateur commun, pardon. En revanche, sur le plan collectif, je serais plutôt de l'avis de Damien en disant que peut-être que le Sénégal n'a pas cette force, cette solidarité, cette cohérence tactique aussi qui est très forte du côté de l'Algérie, avec un système bien huilé qui fonctionne bien, encore une fois pas forcément extrêmement complexe, assez simpliste. En même temps, Belmadi n'a pas eu énormément de temps pour mettre en place un système de jeu avec cette équipe. Il l'a bien fait en choisissant un système simple qui fonctionne bien, un système dans lequel les joueurs ont l'habitude de jouer en club. On a quand même l'impression que c'est un peu plus huilé du côté de l'Algérie, et les résultats le prouvent. Reste que voilà, la finale, une finale est une finale. Est-ce que le Sénégal sera éternellement le perdant magnifique? Est-ce que cette formation d'Algérie va réussir à aller chercher son troisième sacre en son deuxième sacre en trois finales, pardon, puisqu'ils en ont disputé une en 80, une en 90, et ont remporté celle de 90 face au Nigeria? Ça reste, à mon avis, ça reste extrêmement indécis. J'ai l'impression de faire des poncifs de footballeur en disant qu'une finale, c'est forcément 50-50. Mais quand je vois les deux formations, je me dis, voilà, si je dois pencher pour quelqu'un, ce sera pour l'Algérie, pour deux raisons. Parce que Riyad Mahrez est peut-être encore un peu plus ce joueur star dont cette équipe a besoin, et parce que l'Algérie a pu faire tourner son effectif lors du troisième match de la compétition, où ils étaient déjà qualifiés et où ils ont fait tourner 9 joueurs sur 11. Donc on va dire que c'est une équipe qui a un match de moins dans une compétition qui est assez longue, puisque c'est la première fois qu'il y a autant d'équipes dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc ils ont peut-être un peu plus de fraîcheur aussi, malgré les prolongations.
Et Timothée, il y a aussi quand même un paramètre à prendre en compte, c'est l'absence de Koulibaly. Et ça va porter préjudice quand même à cette équipe du Sénégal.
Ça va forcément porter préjudice, ça risque de déséquilibrer cette formation. On peut imaginer quand même qu'il y a des solutions sur le banc au Sénégal. Il y a un certain nombre de joueurs capables de joueurs assez polyvalents d'ailleurs dans cette équipe. C'est aussi l'une des forces de cette formation. Ce sera une des données de cette rencontre.
C'est quand même dommage.
Parlait de cette notion de supplément d'âme. Je termine juste une seconde. Il parlait de cette notion de supplément d'âme. On a l'impression quand même que s'il doit y en avoir un après l'année. Encore une fois, ce dont je parlais hier, l'année géopolitique de l'Algérie, on a l'impression qu'ils sont vraiment en charge d'une mission, les joueurs algériens. Ça se ressent en conférence de presse, et c'est peut-être ça qui va jouer aussi.
Ouais, je disais juste pour finir que c'est dommage de ne pas voir Koulibaly dans cette finale. On aurait aimé quand même que les deux équipes soient au complet, bien sûr.
Exactement.
Ah bah, absolument. Absolument.
Merci beaucoup Timothée Mémon, et on te retrouve évidemment demain pour la suite du feuilleton sur cette CAN, et notamment déjà ce match pour la troisième place entre le Nigeria et la Tunisie, évidemment vendredi soir, cette finale. Alors il y a beaucoup de messages via le hashtag RMC Live qui me dit: mais tu te trompes, Kylian Mbappé n'a pas marqué 3 buts, il a marqué 2 buts. Alors oui, je viens de vérifier, il a marqué 2 buts, calmez-vous les copains, il n'y a pas de problème, c'est juste que le troisième but ne lui a pas été accordé, et visiblement le jeune attaquant parisien avait touché la balle du bout du pied. Voilà, j'ai fait mes excuses. J'imagine que vous allez être satisfait et que vous n'allez pas trop me fouetter pour cette imprécision. Sinon, vous dire que nous avons la confirmation de la com du Paris Saint-Germain, qui a confirmé que c'était bien la réponse de Thomas Tuchel, et qu'il a bien affirmé qu'avant la fin de la saison ou à la fin de la saison, il était au courant que Neymar voulait quitter et partir du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est la com du Paris Saint-Germain qui nous l'a annoncé. 23h42, on revient dans quelques instants pour la dernière ligne droite de l'after, mais surtout pour le mercato, toutes les informations du jour, c'est dans quelques instants.
RMC l'after foot, Jean-Christophe Drouet.
23h43, vous êtes dans l'after avec Damien Perrinel, Kevin Diaz, mais également Anthony Reich, qui va nous parler de mercato. Tout de suite, jingle.
C'est combien ?
30 000.
Attends, je vais te manger.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber. Fais-lui ses 30 000. C'est un con.
Toutes les informations du jour, vous pouvez aller consulter notre site internet rmcsport.fr, évidemment, pour avoir de plus amples informations. Nous allons commencer, Anthony Reich, par Abdou Diallo, le nouveau Parisien.
Oui, le Paris Saint-Germain qui tient officiellement sa cinquième recrue estivale. Le club de la capitale a annoncé sur ses réseaux sociaux aujourd'hui l'arrivée d'Abdou Diallo en provenance du Borussia Dortmund. Le jeune défenseur français de 23 ans avait passé sa visite médicale hier après-midi à Paris. Formé à Monaco, il évoluait en Bundesliga depuis 2017 et selon nos informations, l'indemnité de transfert s'élève à 32 millions d'euros. 2 millions d'euros en bonus. Il portera le numéro 22. Il a découvert le Parc des Princes cet après-midi.
Bon choix pour vous, Abdou Diallo ?
Ah bah, jeune joueur avec un gros potentiel, capitaine des U23, c'est ça, de l'équipe de France Espoir.
Mais il n'a pas fait l'Euro Espoir parce qu'il a
une opération.
Exactement, il a préféré se soigner alors qu'il pouvait techniquement, parce que ce n'était pas dû à un problème physique, il pouvait techniquement faire cet Euro, mais il a préféré privilégier son corps et puis peut-être sa carrière aussi.
Non, maintenant à voir dans quel schéma tactique Tourelle veut l'utiliser. On pourrait penser que Kimpembe est en danger, mais en même temps, s'il veut un système à trois défenseurs, à trois axiaux, voilà, ça peut peut-être nous éclaircir sur les intentions tactiques de Tourelle.
Kevin ?
Moi, je trouve ça quand même pas donné, hein, Diallo. Sachant que c'est un joueur qui est formé en France, donc c'est toujours dommage de devoir aller le rechercher à l'étranger pour un prix qui est quand même assez élevé pour un jeune joueur. Maintenant, dans cette fameuse catégorie dont je parlais tout à l'heure des joueurs intermédiaires, c'est vraiment des joueurs qui sont intéressants, hein, qui sont en pleine force de l'âge, qui peuvent encore progresser et qui, je pense, vont tout donner pour le PSG. Donc, c'est plutôt bien.
Adama Soumaoro a passé sa visite médicale à Monaco.
Oui, l'ASM et le LOSC ont trouvé un accord pour le transfert d'Adama Soumaoro, avoisinant les 13 millions d'euros. Le défenseur central de 27 ans a passé sa visite médicale à Monaco aujourd'hui. Si ça s'avère concluant, évidemment, il s'engagera dans la foulée avec le club de la Principauté. Il viendrait notamment renforcer un secteur un petit peu en difficulté la saison dernière. Il pourrait faire la paire, notamment en défense centrale, avec le Polonais Kamil Glik.
On en a parlé tout à l'heure. Adama Soumaoro qui, à la suite de quelques blessures avec Lille, avait perdu sa place. Gabriel l'avait parfaitement secondé. Et c'est vrai qu'Adama Soumaoro, s'il avait aussi envie de se relancer, il fallait qu'il trouve un autre club.
Oui, pour lui, en plus, sacré club quand même. L'AS Monaco, pour un joueur qui était à Lille, même s'ils ont fait, bien sûr, on le sait, une belle saison. Mais je pense que pour lui, c'est un pas en avant. Pour Monaco aussi, on l'a dit tout à l'heure, c'est un recrutement intelligent. Maintenant, il faut que ça prenne.
Justement, on parle de Lille, car il y a un accord entre Lille, on en a déjà parlé dans l'after, et Trabzonspor pour Yaz ici.
Oui, c'est la fin d'un feuilleton pour le LOSC, le premier gros feuilleton un petit peu, enfin le deuxième avec Pépé de cet été. Lille et le club turc ont quasiment trouvé un accord pour le transfert de l'espoir turc, Youssouf Yazici. Selon nos informations, l'accord avoisinerait les 17 millions d'euros, bonus compris. Le milieu de terrain de 22 ans, lui, est d'ores et déjà d'accord avec le club lillois pour un contrat de 5 ans. L'international turc, 14 sélections tout de même, est attendu à Lille avant la fin de semaine pour passer sa visite médicale.
Ouais, et c'est vrai que Lille en avait fait sa priorité et on a vraiment hâte de le voir parce que c'est vrai qu'il est présenté comme une pépite. On le connaît peu, on va pas se mentir, mais on a envie de le voir à Lille. Et juste pour rester sur le dossier Lille, c'est vrai que vous avez entendu, notamment dans Team Dugas, Christophe Galtier, c'était en mai dernier, qui parlait des départs. Et on avait cette question, est-ce que Lille va se faire piller? Est-ce que ça va être trop dur pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine? Eh bien, au rayon des départs pour l'instant, si on compte Adama Soumaoro, il y a Thiago Mendes et Youssouf Koné qui sont partis à Lyon. Adama Soumaoro qui a donc signé à Monaco. Évidemment, Pépé va quitter le LOSC. Christophe Galtier avait parlé de 4 joueurs maximum qui pouvaient quitter le Nord. On n'est que le 16 juillet et il y en a déjà 4.
Mais surtout, lors de cet entretien, on se souvient qu'il affichait une sérénité incroyable et une confiance envers Campos pour les remplacer. Il savait très bien qu'il y avait de bons jeunes au club, que la cellule de recrutement, celle de Lille, fonctionne très bien. Et là encore, alors on le connaît pas ce joueur, hein, on va pas, on, voilà, si l'OM l'avait acheté ce prix-là, on aurait dit scandale de mettre autant d'argent. Mais quand c'est Lille qui le fait, on sait que derrière ça bosse tout de suite, on se dit tiens là, il y a peut-être un bon coup à faire justement pour le LOSC.
C'est tout à fait ça, je suis complètement d'accord avec Damien. À Lille, il y a la compétence. À Lille, il y a le savoir-faire pour recruter. certains Campos, le peut-être le meilleur recruteur en Europe ou un des meilleurs clairement. Donc voilà, si ça avait été l'OM, bon, je pense que 17 millions d'euros, ça va encore, c'est correct. Par contre, là, c'est Lille. Il y a Campos derrière, donc on sait qu'il y a du savoir-faire. Bien sûr, il peut y avoir du déchet, parce que ça reste que du football, et à l'adaptation d'un joueur turc, on ne sait pas comment ça va aller dans son nouveau club à Lille. Mais en tout cas, le savoir-faire est là, et sûrement que il y aura beaucoup de qualité chez ce joueur.
Que Lille arrive à remplacer ses joueurs, ça paraît normal, mais c'est vrai qu'il y avait une équipe solide et pour l'instant ça fait déjà 4 départs si on prend en compte le départ de Pépé, évidemment il est inéluctable, et c'est vrai que Lille n'est pas à l'abri d'offres pour Ikoné, pour Bamba, et de perdre encore des joueurs.
Non, parce qu'aujourd'hui ils sont plus dans une, là ils sont toujours dans la démarche de trading bien sûr. Mais c'était assez clair avec Lopez, il y avait ces 4 ou 5 joueurs qui devaient partir et les autres ils gardent. On peut leur donner ce qu'on, ils vont garder, ils vont même les valoriser plus quand ils vont jouer à la Champions League. Ils vont faire des, ils vont y valoir 2 fois plus cher l'année prochaine.
Il y a 2 choses. Soit, comme tu dis, ça peut être inquiétant parce que il y a déjà 4 départs et s'il y en avait d'autres derrière, là, ça pourrait être plus du pillage que du mercato. Par contre, si ils choisissent de vendre leurs 4 joueurs maintenant pour avoir le temps de préparer leur effectif et de recruter le plus tôt possible pour laisser le temps à Christophe Galtier justement de préparer cette saison qui arrive, dans ce cas-là, ce serait une bonne idée. Donc, wait and see. On attend de voir.
Dario Benedetto, on en parlait tout à l'heure, est d'accord avec l'OM.
Ouais, là, l'entente a été trouvée sur un contrat de 3 saisons. Dario Benedetto, attaquant de 29 ans du Boca Junior, meilleur buteur d'ailleurs du championnat argentin en 2017, international avec 5 sélections et 5 buts la saison passée en 21 matchs joués. Le club phocéen doit désormais se mettre d'accord avec le club de l'attaquant lié à Boca jusqu'en 2021 et Boca Junior justement qui réclame 21 millions d'euros. C'est le montant de sa clause libératoire. L'OM toutefois ne veut pas dépenser cette somme-là, il préfère être plus sur un tarif de 15 millions d'euros, mais les dirigeants marseillais dans les dernières heures semblaient plutôt confiants pour trouver un juste milieu entre ces deux montants.
Bon, on va pas revenir sur cette histoire de Dario Benedetto, on en a déjà parlé et évoqué tout à l'heure dans notre débat sur l'Olympique de Marseille. Jérémy Morel qui rebondit à Rennes.
Et oui, en fin de contrat à l'Olympique Lyonnais, Jérémy Morel était fortement pressenti notamment chez le promu brestois à une certaine époque. Et puis finalement, il signe au Stade Rennais. Le latéral malgache revenu de la CAN a signé pour une saison. À 35 ans, le natif de Lorient revient donc un peu sur ses terres bretonnes pour connaître le 4e club de sa carrière après Lorient, l'OM et l'OL. Et lors de la précédente saison, il n'avait joué que 12 rencontres de Ligue 1 avec Lyon.
C'est malin de la part du Stade Rennais ?
Ils n'ont qu'un bénéfice à avoir Morel dans un vestiaire. Pour venir sur le cas de Morel, c'était un peu la tête de Turc facile, je trouve, à viser lorsqu'il était à Marseille, lorsqu'il était à Lyon. Pourquoi ? Parce qu'il a peut-être une allure, ou je sais pas, moi, un nom qui revient pas. Alors, et en plus de ça, quand il faisait une boulette, alors là, ça se voyait 10 fois plus que les autres. Pour la carrière de Morel, c'était ça. Maintenant, s'il y a un entraîneur comme Bielsa, le mettait en défense centrale, que c'était celui qui gagnait le plus de duels aériens, je me souviens, au niveau de la défense centrale à Marseille, que derrière, on va le récupérer à Lyon, et qu'à 35 ans, on mise sur lui à Rennes, c'est quand même que ce joueur a des qualités, au bout d'un moment. Donc, moi, je suis très content qu'un joueur de 35 ans puisse signer un an à Rennes.
Ok, voilà, c'était le cri du cœur de Damien Perrinet, si je comprends bien.
De toute façon, superbe carrière hein, pour Morel. Après, comme tu dis, il souffre peut-être d'un manque d'élégance dans son jeu, dans sa manière de football, de jouer au football. C'est vrai que c'est pas le joueur qui est le plus beau à voir jouer, mais en tout cas un vrai soldat, un joueur qui rend toujours des services avec un état d'esprit exceptionnel, et ça aussi ça compte.
Marcus Coco signe à Nantes.
Oui, l'international espoir français, 23 ans, arrivé en 2012 à Guingamp, a rejoint officiellement le FC Nantes aujourd'hui. Le montant du transfert n'a pas filtré, mais l'ailier doit encore passer sa visite médicale. Il portera le numéro 8.
Marcus Coco à Nantes, c'est vrai que s'il y a bien un endroit où il faut aller chercher, c'est quand même à Guingamp, relégué en Ligue 2.
Mais Nantes, moi je trouve qu'on critique beaucoup Valdemar Quita, mais il a toujours quand même son réseau. Alors je sais pas quelle est exactement sa filière, mais il arrive toujours à aller chercher de très bons joueurs. Coco à Nantes, c'est quand même une belle recrue. On l'a vu sur plusieurs profils où il arrive. Alors il y a eu une filière portugaise avec l'arrivée de l'entraîneur. Ça s'est pas forcément bien passé pour lui, en tout cas pour le coach. Mais il y a quand même eu 2-3 joueurs à Nantes qui ont encore fait une très très grosse saison. Donc c'est ma soirée où je défends un peu ceux qui en prennent beaucoup sur le dos ces derniers mois. Mais on peut dire quand même que Keita, il arrive toujours à présenter une équipe correcte à chaque début de saison.
Ok, tu veux défendre Adrien Rabiot là ou pas? Non.
Adrien Rabiot, là, c'est son bras de fer, il signe à la Juve.
Lille et Rennes sont d'accord pour Benjamin André.
Oui, un accord qui a été bouclé donc pour le transfert de Benjamin André autour de 8 millions d'euros. Le joueur a fait ses adieux à Rennes et était attendu ce mardi soir à Lille avant de passer la visite médicale.
On passe à l'étranger avec De Ligt à la Juventus Turin.
Et après avoir flirté plus ou moins sérieusement avec le Barça, le Paris Saint-Germain, le défenseur central international néerlandais de 19 ans a atterri à Turin peu avant 22h30. On l'a vu sur les réseaux sociaux du club de la Juve. En vue de son transfert, évidemment, un accord aurait été trouvé aux alentours des 70 millions d'euros selon nos informations. Il doit passer encore sa visite médicale demain, mercredi, et puis s'engager pour une durée de 5 ans avec le club de la vieille dame.
Belle pioche pour un autre club italien, c'est Benacer à l'AC Milan, c'est fait.
Ah, et la révélation de l'Algérie, de cette Coupe d'Afrique des Nations notamment, Ismaël Benacer, 21 ans, qui va rejoindre le Milan AC. Empoli et le Milan ont trouvé un accord avoisinant 16 millions d'euros, bonus compris. Le joueur va s'engager pour 5 ans. Il est attendu ce week-end à Milan, après la finale évidemment de la CAN.
Et ouais, on espère que ce sera un magnifique été pour lui et avec cette victoire à la CAN et puis ce transfert donc à l'AC Milan. À Newcastle, on part en Angleterre avec Bruno Genesio qui ne devrait pas tout de suite retrouver du boulot.
Ouais, choix du candidat à la reprise du club anglais, hein, Newcastle, Peter Kenyon. Bruno Genesio ne sera pas le nouvel entraîneur de Newcastle a priori. Son fantasque propriétaire Mike Ashley ne veut plus vendre. Il aurait refusé une offre de 400 millions d'euros et installerait Steve Bruce sur le banc à la place de Raphaël Benitez.
Ah, Steve Bruce, le pur entraîneur anglais des Sunderland, de tout ce qui nous a fait rêver.
Et il vient d'un club de D2, là, je crois, en plus.
Ouais, certainement. Bon, après, Steve Bruce, c'est pas n'importe qui. Attention, une grande époque de Manchester avec Cantona quand il était joueur.
C'est pas comme si Bruno Genesio faisait rêver non plus.
Ouais, mais bon, ça apporte un peu d'exotisme dans le nord de l'Angleterre, c'était sympa. Un
petit Bruno Genesio exotique.
Il était à Sheffield, hein, Steve Bruce. Et c'est vrai que Bruno Genesio, vous lui conseillez quoi? D'attendre quand même un petit peu? Peut-être de faire une petite année
Non, surf sur la vague où t'es connu encore, parce que mine de rien, on détruit Genesio, mais il a quand même fait un boulot honorable.
Totalement.
À Lyon. Mmh. Il avait des objectifs, il a toujours rempli ses objectifs. Alors certes, on pouvait attendre mieux d'un point de vue du jeu, mais non, il a un nouvel agent qui
s'est placé. Puis il s'est battu contre vents et marées quand même. Hein. Mmh. C'est pas évident comme ça pendant 3 ans de durer autant de temps dans un club comme Lyon. Donc voilà, on espère en tout cas plein de belles choses pour.
Il n'y a pas que toi qui défend les.
Les bravo,
bien vu.
Je vais pas défendre Genesio.
On va terminer avec cette information sympa. C'est le fils de Pochettino qui signe pro à Tottenham.
Ouais, on a l'habitude de voir les Zidane, notamment au Real. Et bien le fils de Mauricio Pochettino, c'est Maurizio avec un Z et non pas avec un C comme papa, qui a signé son premier contrat pro avec Tottenham. L'attaquant de 18 ans a paraffé le précieux document avec son papa évidemment à ses côtés.
D'accord, donc quand tu t'appelles Mauricio et que tu as un enfant, tu l'appelles Maurizio. Voilà. Bon, peut-être que mon père s'appelait Jean-Christophe, donc ça s'est ficelé comme ça. Bref, il est temps de rendre l'antenne, un petit peu bouilli évidemment. Merci beaucoup Kevin Diaz, merci beaucoup Damien Périnel, Anthony Reich évidemment, de la rédaction RMC Sport pour toutes ces informations Mercato. Merci à tous de nous avoir suivis, on vous souhaite une très belle nuit, pourquoi pas à l'écoute d'RMC. Sachez qu'on sera là demain pour l'after à partir de 21h. Et merci évidemment à notre producteur Jimmy Brown. Salut.
RMC, l'After Food.